Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Et oui, bonjour chers auditeurs et auditrices, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel. Et ce qu'on entend, eh bien, c'est les sonnettes d'une manifestation à vélo, puisque dans Zoom Écologie, on aime bien les manifestations à vélo. Et le week-end dernier, nous étions en train de couvrir celle qui a eu lieu dans le cadre des soulèvements de la Terre. On vous en parle tout de suite.
Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel sur le 106.3 FM et c'est Zoom Écologie. Et comme vous avez pu le comprendre, eh bien, nous étions le week-end dernier, 11 octobre, eh bien, à Tourotte, à côté de Compiègne, pour suivre la manifestation et plus largement le rassemblement contre le projet de Mégacanal dont on vous a parlé, eh bien, jeudi dernier. Donc c'est une sorte de suite éditoriale, on vous a annoncé la manif, eh bien, Zoom Écologie s'est déplacé pour vous faire un petit reportage là-bas. Et puis, on s'écoute ça.
Bonjour, c'est Fréquence Paris Pluriel. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce qu'on pédale sur la route à une vingtaine, là?
On essaye de se rendre à la gare de...
Tourotte.
Voilà, où il va y avoir une petite déambulation festive.
Ouais.
Voilà.
C'est souvent que tu manifestes à vélo ?
Quelques fois, là, il y a de plus en plus d'événements qui sont organisés à vélo. En vrai, c'est chouette, déjà pour se rendre dans des lieux qui sont un peu plus éloignés des gares.
Ouais.
Et ensuite, parce que ça rend la manifestation un peu différente et que ça permet à plusieurs types de personnes de s'y rendre, donc je trouve ça chouette.
Là, on bloque ou on bloque pas ?
Un peu quand même, hein.
C'est l'entre-deux de la manif à vélo.
On a envie de bloquer, hein, vraiment. On y croit, quoi.
On bloque à quoi? À 15 km/h?
Ça, c'est déjà pas mal.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et vers quoi on roule?
Vas-y, je te laisse expliquer derrière, parce que je vais pas hyper aller sur mon vélo.
On va faire les deux choses à la fois, là.
Oui, du coup, on se dirige vers une manifestation contre Canal Seine Nord.
Du coup, là, le truc, c'est d'être à vélo depuis Compiègne pour aller à quel bled?
Donc là, on va à la gare de Tourotte, ouais. Rejoindre d'autres cyclistes qui vont augmenter le cortège,
ouais.
Pour faire un petit pique-nique tous ensemble et ensuite faire un cortège à vélo contre ce canal Seine-Nord.
Donc il y aura un cortège à vélo.
Exactement.
Okay. Alors là, on part de la gare de Compiègne parce que on est dans l'heure de midi là et on est nombreux à avoir pris le train depuis Paris. Toi, tu viens depuis Paris là ?
Oui, moi je suis étudiant à Paris. Donc j'ai pris le train à Gare du Nord pour venir jusqu'à Compiègne.
C'est quoi qui te dit je vais venir sur mon samedi, dimanche à Compiègne faire du vélo contre ce canal? C'est quoi qui t'a motivé?
Ce qui me motive, c'est quand j'ai découvert ce projet, son ampleur vraiment énorme, son coût aussi et sa faible utilité vu qu'il y a déjà un canal qui existe, qu'on pourrait juste l'agrandir, il n'est même pas surfréquenté. Donc c'est vraiment pour des questions aussi de terres agricoles que je me mobilise. Et le fait que ce soit organisé par beaucoup d'organisations, mais on sent que c'est bien organisé, donc ça donne aussi envie de venir, quoi.
Toi, tu fais l'aller-retour ou tu passes le week-end ?
Moi, je fais l'aller-retour. Je vais revenir demain aussi, juste parce que j'ai pas...
Je vois qu'il y a pas mal de personnes avec des sacs vélo chargés et tout. Ça fait un petit convoi, c'est marrant.
Moi j'aime beaucoup l'ambiance. En plus, si on rejoint d'autres convois qui s'assemblent, en plus c'est très efficace, je trouve. On peut un peu ralentir la circulation sans vraiment bloquer la route. Donc
ouais.
Moi j'aime bien.
Okay, très bien. Et plus tard pour la suite du cortège vélo alors.
Merci. À plus tard.
Aujourd'hui c'est notre première date nationale qui est portée par une vingtaine d'organisations. Regroupés ici en soutien contre ce projet écocidaire.
Ouais.
mais c'est également une mobilisation internationale, car nous avons des copains en Allemagne, en Hollande et en Belgique qui sont également mobilisés actuellement. En Allemagne, ils ont bloqué un port de, agroalimentaire pour lutter contre l'export de soja en utilisation, qui utilise l'eau en Allemagne pour exporter... En Hollande, c'est le blocage du port de Rotterdam, plus grand port européen. Et en Belgique, ils ont bloqué le ArcelorMittal. Il y a 400 personnes qui sont en train de le bloquer avec Stop Arming Israël pour lutter contre l'export des matières pour l'armement contre Gaza.
Salut. On m'envoie en premier parce que j'ai pas de texte. C'est cool ou pas? Donc j'appartiens à la FSU. Mais je suis ici aussi pour deux autres raisons. La première, c'est que je suis un habitant du secteur. J'habite vraiment tout à côté à Montmac. Pour celles et ceux qui connaissent, c'est, vous suivez la route, c'est juste là-bas. Et je suis professeur des écoles. Donc en fait, bah, la première chose, c'est qu'en tant qu'habitant, voilà, moi je vais être très honnête avec vous parce que la plupart d'entre vous, je sais que vous habitez pas sur le secteur. Bah moi, j'avais une forêt derrière chez moi, en fait. J'ouvrais ma fenêtre de cuisine, je voyais une forêt. Elle est détruite. Il n'y a plus rien. Ils ont absolument tout détruit. Et je vous assure qu'en tant qu'habitant, ça donne envie de chialer. Ça, vraiment, sincèrement, de voir la destruction d'espace, de vie comme ça, de retrouver des pivers dans mon jardin, de retrouver des renards dans mon jardin, et qui viennent là pas parce qu'ils aiment mon jardin, parce qu'en fait, ils n'ont plus d'endroit où aller. C'est... Ah, voilà, je passe là-dessus, mais en tant qu'habitant, c'est vraiment terrible ce qui est en train de se passer. On se rend compte à chaque moment du désastre écologique qui est en train de se produire, sous nos yeux, très tranquillement. Ensuite, en tant que prof des écoles, parce que je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais on a appris que la Société du Canal avait fait un partenariat avec l'Éducation nationale. Ouais, là on peut y aller. Et en fait, vous n'êtes pas sans ignorer que on a un pouvoir en fait dans l'Éducation nationale. Hein. Le pouvoir de faire que notre jeunesse soit émancipée et qu'elle devienne des adultes comme nous. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important, le pouvoir qu'on a. Et s'ils commencent à rentrer dans l'éducation nationale et à mettre dans la tête de profs qui ne seraient pas au courant que ça, c'est super bien de construire des méga canaux, de tout détruire, au fur et à mesure, ça va s'instiller dans l'école. Les jeunes vont grandir en se disant « Mais c'est très bien ces méga projets, c'est bien pour l'avenir ». Et ça, c'est vraiment, c'est au-delà de scandaleux, en fait. Donc, il y avait le côté habitant, il y avait le côté prof des écoles, et puis il y a évidemment le côté syndicaliste. Nous, on est à la FSU, une fédération de transformation sociale. On est pour le progrès social. Et alors, clairement, détruire des tas d'écosystèmes, ça n'a jamais été un progrès social. Absolument jamais, et ça ne le sera jamais. On est juste en train de se détruire nous-mêmes. Pour en plus quelque chose qui est absolument inutile. Absolument inutile. Parce qu'en fait, là, je me tiens sur une péniche qui est sur un... Voilà. Ben, je m'arrêterai là.
Bonjour à tous. Moi, je suis venu pour témoigner. Je suis agriculteur à la Confédération Paysanne et je suis exploitant un peu plus loin sur le canal, à côté de Nel. Les conséquences sur mon exploitation, c'est la perte de 20 hectares qui a été accaparée par la SAFER pour ce grand projet-là. C'est un tiers de la surface de ma ferme. Ça veut dire que ma ferme qui était transmissible, en fait, elle va être démantelée parce qu'on a perdu 20 hectares de surface qui ont été vendus par notre propriétaire parce qu'on lui offrait 23 000 euros de l'hectare, alors que les prix moyens SAFER, c'est 10 ou 11 000 euros. Donc moi, je suis venu pour dire, ce grand canal ne doit pas voir le jour, parce que c'est un projet inutile. La Confédération paysanne s'est positionnée de nombreuses fois sur des projets inutiles. Je vais en rappeler deux. Je vais rappeler Notre-Dame-des-Landes et je vais rappeler aussi la ferme des 1000 vaches qui est vraiment tout à fait ici à côté. Ça veut dire que la Confédération paysanne compte sur votre aide. Elle compte aussi sur les aides des autres associations qui pourront nous rejoindre. Je voudrais terminer par ça. En fait, le long du Grand Canal, il y a toute une batterie de projets industriels qui se préparent, des plateformes multimodales qui vont bouffer de la surface agricole. Donc les surfaces agricoles vont être, on va dire, en spéculation et ce seront les plus offrants qui feront main basse sur la surface. Il va y avoir des consommations d'eau absolument effroyables et on va vous culpabiliser parce que vous vous lavez les dents en laissant le robinet couler alors qu'on consomme des mètres cubes qui sont perdus pour l'agriculture, perdus pour la planète. Et je vais prendre un seul exemple. À Nel, il y aura une plateforme multimodale, mais il y aura aussi une zone industrielle qui est en projet avec une usine de construction d'engrais qui devrait produire 500 000 tonnes d'ammonitrate. AZF, quand ça a explosé, c'était 450 tonnes. Là, ils vont faire 500 000 tonnes par an d'ammonitrate. Ils vont consommer 200 mégawatts d'électricité, c'est-à-dire quasiment une tranche de centrale nucléaire par an. Ils vont consommer 11 000 mètres cubes d'eau par jour. 11 000 mètres cubes d'eau par jour, simplement pour refroidir le truc. Alors, c'est un projet qui est pour construire de l'ammonitrate qui était issu de la... du gaz ou du pétrole russe ou du pétrole ukrainien. Donc là, il voudrait le faire en hydrolysant l'eau pour en tirer de l'hydrogène et de l'oxygène. Mais sauf que c'est beaucoup plus coûteux en termes d'énergie et beaucoup plus coûteux également en termes financiers. Et ce projet-là, il est en train de se construire là, à 50 km d'ici. Le projet Fertigae, il n'aura pas lieu s'il n'y a pas de canal. Et d'autres plateformes multimodales qui vont consommer des kilomètres et des kilomètres carrés de surface qui seront en friche dans 10 ans, en fait, ils n'auront pas lieu non plus s'il n'y a pas de grand canal. Et ne vous laissez pas, on va dire, endormir par les gens qui vous disent « ça va faire de l'emploi ». Avec le développement de l'intelligence artificielle, il n'y aura pas de caristes. Il n'y aura personne qui sera embauché, sauf quelques ingénieurs chimistes qui viendront de l'autre bout du monde et qui seront devant des pupitres et tout sera automatisé, tout sera robotisé. Donc les emplois qui rejailliront sur le coin, il n'y en aura pas ou il y en aura tellement peu que ça sera complètement inutile. Voilà, donc soyons fermes. Si vous voulez, je pense qu'il est normal de s'attaquer maintenant à la forteresse agro-industrielle et si possible de la faire tomber. Ouais !
Méga canal ! Méga scandale !
Méga canal ! Méga scandale ! Méga canal, on en veut.
Quoi ?
Rejoignez-nous.
Méga canal, c'est nul. Le méga canal est nul. Bouh le canal. Bouh. C'est ceux qui veulent nous rejoindre, vous voyez les magnifiques colos, c'est pas que des trucs énervés. On est gentils. Voilà. Et donc actuellement, il y a plusieurs centaines de personnes, voire un millier, qui est en train de converger et de marcher pour aller voir de ses propres yeux l'ampleur des dégâts et des travaux. Voilà.
Ce que nous propose les forces de l'ordre, c'est de faire demi-tour et de rentrer de là où on est parti, donc à la base vie, de poser nos vélos là-bas et de rejoindre les camarades à pied depuis là-bas.
Eh bien, on a retrouvé la manifestation principale, après quelques petits détours. Et les gens de cette manifestation ont l'air quand même plutôt joyeux, on dirait. On ne savait pas comment, vu qu'on a vu l'hélico au-dessus de vous, on s'est dit « Oh merde, comment ils vont ressortir ?» Et finalement, ça a l'air d'aller. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as vécu la manifestation? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cortège principal?
Alors, le cortège principal, à un moment, on nous a dit de bifurquer sur la droite et on a dû partir vite à travers champs, en marche dynamique. Et on est passé, on a longé le canal et je pense qu'il y avait un petit groupe de personnes qui étaient au courant de ce qui allait se passer, qui avaient prévu l'action et qui d'un coup du coup se sont mis en maillot de bain et qui ont plongé dans le canal puisque l'objectif c'était de traverser le canal et d'aller sur l'autre rive pour déployer une banderole Je me souviens plus ce qu'il y avait écrit. Et en déployant quelques fumigènes. Et donc, il y avait les flics de l'autre côté qui n'ont pas eu le temps de les attraper. Et du coup, ils sont tous repartis à la nage. Donc, c'était super. C'était une belle action. C'était joli.
Pourquoi aller en face? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, c'était ils ont traversé le canal actuel. Et pourquoi ils ont traversé le canal actuel? C'était quoi l'objectif d'aller de l'autre côté?
C'était pour aller visiter le chantier en cours.
D'accord, parce que donc en face du canal, c'est le chantier en cours.
Oui, exactement.
Alors, est-ce que tu l'as vu ce chantier?
Alors, on l'a vu de loin, mais du coup, je sais pas, j'étais pas sur l'autre rive, mais on voit au loin les gravats.
Donc, en fait, on est d'accord que c'est pas le futur chantier, c'est le chantier vraiment qui a déjà lieu avec les machines et les engins, les gravats.
Oui, exactement.
Ok, d'accord. Eh bien, parmi, je sais pas, le cortège s'est arrêté, je sais pas trop pourquoi. Et eh bien, comme plein d'entre nous, vous avez l'air d'être quand même d'avoir la banane en revenant de cette manifestation, ce qui n'est pas toujours le cas des manifestations contre les projets inutiles. Vous êtes pas baigné.
Je me suis pas baigné, mais j'ai fait la bifurcation. Et effectivement, avec un cortège uni,
C'est ça. Hein, une fois qu'on est assez nombreux à travers champs, en fait, ça change un peu la donne quand même. Hein.
Mais on sentait qu'on était observés quand même. Il y avait un hélicoptère, il y avait 8 fourgons de police en face.
Alors, nous, on l'a eu tout le temps l'hélicoptère. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fout l'hélicoptère? Et du coup, c'était pour ça.
Ouais. À un moment aussi, il y a une brigade d'intervention qui arrive en courant. Mais à ce moment-là, ils ont replongé, donc ils n'ont pas réussi à les avoir. Mais il y avait aussi des pompiers en Zodiac, des gendarmes en Zodiac. Okay. Donc ouais, il y avait du monde.
Ok, très bien. Bon, vous êtes content de la journée?
Ouais, parce que c'était génial, la manifestation était hyper festive et on était entre étudiants et du coup ça c'était trop cool.
Ok, alors vous êtes venu en tant qu'étudiant, vous êtes concerné par le projet ou juste parce que ça vous semblait important de venir?
On est très concerné par le sujet parce que notre école, l'UTC en question...
C'est à l'UTC, voilà. Alors dites-nous.
Eh bien l'UTC est partenaire du projet, bien qu'il y ait eu des pétitions étudiantes et du corps enseignant contre ce projet et rien à faire. On n'arrive pas à bouger.
Alors en quoi l'UTC, c'est quoi son rôle là-dedans? Si vous dites qu'elle est partenaire, c'est quoi le détail? Parce que qu'une fac soit partenaire d'un chantier comme ça, c'est pas du tout anodin en fait.
Même nous on comprend pas, mais l'UTC a plein de partenaires avec plein d'entreprises plus ou moins positives. Et du coup, oui, je pense que c'est pour le côté BTP, pour potentiellement en fait envoyer des ingénieurs ensuite travailler sur ce projet et faire le lien comme ça.
Parce que l'UTC, c'est une grosse école d'ingénieurs, c'est ça en fait. Ça s'appelle université, mais c'est très professionnalisant, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est une école d'ingé.
Et alors, donc ça veut dire que possiblement dans votre promo ou dans d'autres, il y a des partenariats avec des personnes qui vont aller faire leurs études en partenariat avec le chantier pour devenir des ingénieurs des ponts et chaussées, enfin équivalent on va dire ce genre de choses, en tout cas du BTP, et qui du coup seraient des gens qui auraient été à peu près directement formés par les maîtres d'œuvre eux-mêmes, c'est ça l'enjeu?
Oui c'est ça, enfin, je pense que l'intérêt beaucoup pour l'UTC c'est déjà d'avoir de l'argent pour financer parce que comme les financements des facs aujourd'hui c'est compliqué, ça leur permet d'avoir l'argent et oui c'est ça, enfin, le canal, le méga canal ce qu'ils en resservent c'est de pouvoir faire leur pub et pouvoir dire genre venez ensuite, venez travailler pour nous et venez construire le canal quoi.
Et alors dans votre promo, en tant que justement débouché à la fois d'études et professionnels, ils en pensent quoi vos camarades? Est-ce que c'est compliqué de se dire en fait on est mobilisé globalement parce qu'en fait en tant qu'étudiant ça nous plaît pas, ou est-ce qu'il y a un ensemble d'étudiants qui se disent c'est plutôt une opportunité? C'est quoi un peu l'ambiance dans l'UTC étant donné ces enjeux quoi?
L'ambiance générale elle est très divisée, on a effectivement une belle proportion grandissante des étudiants au sein de l'UTC qui sont de plus en plus contre ce genre de partenariat et ne veulent pas travailler avec ce genre d'entreprise et d'industrie, et au contraire il reste toujours une part plus conventionnelle d'ingénierie qui continue à travailler et à assister aux amphis de présentation de ce genre d'entreprise.
Parce que ça veut dire aussi qu'il y a une vraie promotion de ce projet-là au sein de l'école par l'encadrement de l'école.
Je ne sais pas exactement à quel point il y a une promotion du projet parce qu'on n'en entend pas forcément parler. En fait, je pense que la plupart de nos camarades sont juste pas au courant de ce projet et je pense que ce partenariat, il est surtout assez informel. Enfin, il n'y a pas concrètement des présentations du projet Canal pour nous montrer à quel point c'est bien tout ça.
C'est plutôt un financement qui est là, qui permet de déboucher, ça. Mais qui n'est pas forcément très affiché. Quoi.
C'est ça.
Ok, eh ben, merci bien pour ce petit témoignage et puis bonne continuation.
Merci, vous aussi.
Thank you.
Alors, eh bien, on est à la tombée de la nuit au milieu du champ qui accueille le camp. On est entouré d'arbres dans lesquels il y a des écureuils qui sont en train de grimper. Et il se trouve que eh bien, je suis en présence d'une naturaliste d'Ether qui donc participe aux inventaires, aux études contre ce projet de Grand Canal. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous décrire un peu c'est quoi du point de vue presque paysager un canal industriel tel qu'ils veulent le faire par rapport à un canal déjà existant qui est là ?
Bonjour. Alors oui, un canal. Bon, on a le canal déjà existant qui est le canal du Nord et le canal latéral à l'Oise, qui est un canal qui date des années 65 et en fait dont les berges étaient encore à peu près végétalisées avec par exemple des enrochements. Là, sur le projet du nouveau méga canal, ça va être vraiment un projet assez démesuré. On est sur 50 mètres de large. Deux canals. Donc pour faire ça, il faut une emprise de travaux de 300 mètres de large.
Il y en a un dans un sens, un dans l'autre ?
Non, mais 50 mètres pour pouvoir tenir des barges qui vont dans les deux sens. Ah,
c'est un double sens, quoi.
C'est un double sens. Et c'est pour ça qu'en fait, les nouvelles barges qu'ils veulent installer là-dessus sont trop larges pour tenir sur le canal du Nord en double sens. Et donc, c'est un canal qui fait 4,50 m de profondeur. La difficulté de ces zones, en fait, c'est que déjà d'une, contre ce qu'on pourrait penser, c'est pas du tout une zone de courant. C'est une zone d'eau stagnante. Ça s'assimile énormément à ce qu'on pourrait imaginer d'une bassine. Parce que les seules variations, on va dire, de courant, entre guillemets, ça va être au niveau des écluses. Et un coup, ça va aller vers l'amont, un coup vers l'aval. Donc, on n'est pas du tout sur une zone de courant qui peut accueillir des poissons qui vont remonter le courant et ainsi de suite. Ensuite, en termes de berges, c'est des berges qui sont vraiment très pentues en béton, donc aucune végétation qui s'y met, aucun poisson qui vont pouvoir frayer. Le temps d'installation, en fait, par exemple, de vases et de mollusques va être hyper long.
Parce que, en fait, qu'on imite, en général, un canal, on imagine des berges assez accueillantes avec une guinguette et ça. Là, c'est un parapet énorme avec du béton et c'est pas un canal tel qu'on l'imagine actuellement pour les gens qui sont nos éditeurs à Paris, le canal de Lourdes ou quoi, c'est pas ça. Hein.
J'imagine que ces canaux-là, quand ils ont été construits à cette époque-là, ils n'étaient pas avec la bétonisation actuelle, mais ça ne devait pas être très très joyeux. Mais en fait, la nature reprend ses droits tout le temps et donc ça a recolonisé. Il suffit que les berges elles soient faites avec des enrochements pour que en fait, certaines végétations puissent s'installer. Si on part sur une pente en béton, certaines fois les pentes sont vraiment très très denses, enfin très très pentues. Donc un animal qui va vouloir s'abreuver va descendre, glisser et ne pas pouvoir remonter. Ça va être problématique, par exemple.
Alors donc, le travail des naturalistes des terres, entre autres, qui va être de faire une sorte de contre-expertise de ce qu'est l'inventaire qui va être fait, l'étude écologique. Pour produire ce canal, il faut faire un inventaire, une étude écologique, et vous faites une contre-étude. Alors, comment on fait pour faire une contre-étude face à une armée de naturalistes payée par l'aménageur ?
C'est une grande question. C'est démesuré. En fait, on s'attaque sur un projet, tu as dû déjà le dire, mais qui fait 107 km. C'est énorme. Et donc, il y a des inventaires qui ont été faits par les bureaux d'études qui ont été sollicités par la Société du Canal. Et en fait, ce sont des inventaires, on s'est rendu compte, qui n'ont pas vraiment forcément été faits, qui ont été pris sur des bases de données, par exemple, du Conservatoire botanique ou d'associations naturalistes. Et eux, derrière, ne sont pas forcément revenus. Là, la difficulté qu'on a, c'est que, en fait, 107 km, c'est très difficile à cartographier. Donc, en fait, on a essayé de mettre en évidence déjà des zones où on trouvait que les inventaires étaient très faibles. Par exemple, une zone où ils ont ressorti, par exemple, 150 espèces et une zone où ils en ont ressorti 20 espèces. On se dit 20 espèces, c'est très peu. À mon avis, il y a quelque chose à aller voir.
Même en Picardie, parce que c'est vrai que quand on vient en train ou en voiture, on se rend compte qu'en fait, la Picardie a déjà payé un très 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 lourd tribut du point de vue de l'agro-industrie qui a déjà à peu près tout ravagé en vérité.
C'est vraiment la problématique, c'est qu'on s'est dit 20 espèces c'est peu et après on s'est dit peut-être
c'est crédible.
C'est crédible en fait. Exactement. Donc on est allé regarder, on s'est allié avec les naturalistes donc de Lille, d'Île-de-France et certains d'Amiens, de Lens, de Compiègne pour pouvoir se répartir un petit peu. Mais on a posé un recours juridique et donc avec un avocat, on l'a posé en 2024 au tribunal administratif d'Amiens sur notamment en fait, alors ça portait plutôt sur le fait que on sait qu'il y a des espèces protégées qui sont présentes sur cet espace-là et pour lesquelles il n'y a pas de dérogation d'espèces protégées.
Alors, qui devraient l'avoir.
Et qui devraient l'avoir, exactement. Et donc, on essaye de regarder ça secteur par secteur et après, d'essayer d'aller regarder ces espèces, est-ce qu'elles sont encore présentes et donc de porter plutôt sur le volet administratif que sur le volet terrain. parce qu'on est trop peu pour pouvoir essayer de faire tout ça.
Ça, couvrir 100 et quelques kilomètres, c'est, enfin, il faut vraiment le parcourir en mode battu, enfin, à faire les buissons, les haies, enfin, c'est un travail de titan en vrai. Enfin, en fait, et même tellement titan qu'en fait, ils l'ont pas fait, c'est ça le truc, quoi.
Mais eux, le même l'ont pas, on soupçonne qu'ils l'aient pas fait totalement et on rêverait, nous, de le faire. C'est pour ça qu'on invite tous les naturalistes amateurs et professionnels qui ont un petit peu de temps. On en a parlé aux rencontres nationales des naturalistes des terres cet été, de toutes celles et ceux qui sont un peu motivés pour venir, par exemple, au printemps prochain, nous rejoindre, et on s'organise et on se morcelle un petit peu tout ce tracé-là pour essayer d'aller regarder. C'est vrai qu'aussi, nous, sur ces secteurs, on est un peu tous calés en botanique, parce que donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plein de spécialités dans les naturalistes. Et faire des inventaires botaniques, c'est peut-être le plus simple, parce que c'est des végétaux qui ne vont pas partir, se cacher, migrer, s'enterrer dans des vases.
Alors que les chauves-souris, il faut venir la nuit au bon moment, quoi.
Exactement, ou la mulette, on sait qu'il y a une mulette qui a été trouvée, c'est pas la mulette protégée, c'est pas la mulette épaisse qu'on pensait, mais c'est la mulette méridionale, il me semble. Et en fait, elle a quand même toute une valeur. Beaucoup de batraciens vont être cachés, il y a énormément d'oiseaux migrateurs. Donc en fait, ça nécessite de faire des inventaires 4 saisons, par exemple. Et donc, on invite tous celles et ceux qui sont chauds à nous rejoindre, parce que la lutte, elle vient que de commencer. Donc venez, contactez-nous.
Sachant qu'à la fin, Notre-Dame-des-Landes, les naturalistes, ils avaient produit une liste qui était infiniment plus complète que celle des bureaux d'études qui pourtant avaient bossé sur le sujet. Donc il y a un moment, peut-être la force du nombre fait quand même une vraie contre-expertise qui vaut même scientifiquement, en fait.
Il y a plusieurs points, c'est-à-dire qu'il faut vraiment valoriser les inventaires amateurs. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont amateurs et qui ont une connaissance qui est hyper pointue, et ça a énormément de valeur, et c'est ce qu'il faudrait qu'on puisse mettre en avant et valider dans les contre-expertises. Et en plus de ça, c'est que tu l'as dit tout à l'heure, mais ça reste quand même une région qui a été énormément abîmée par l'industrialisation, et pour autant, on sait que les hotspots de biodiversité dans une région comme ça, ça reste les zones humides. Et aujourd'hui, on est sur l'Oise. Donc s'il y a bien une biodiversité à chercher quelque part, c'est ici.
Et que même s'il ne reste pas grand-chose, bah, c'est ce qui reste. Il y a un truc un peu aussi qu'à la fin, il n'y aura vraiment plus rien, peut-être.
C'est ça, c'est de se dire aussi, peut-être est-ce qu'il y a 50 ans ou 100 ans, en fait, c'était vachement plus riche. Et aujourd'hui, en fait, on n'a que l'héritage, on n'a que des reliquats, en fait, de ce qui reste. Et est-ce qu'on a envie de vraiment détruire ces reliquats, même si cette zone, elle est pauvre, même s'il n'y a que 20 ou 25 espèces, en fait?
Donc là, typiquement, au bord du champ, là, si tu peux nous décrire, on a une haie avec finalement des vieux arbres. Donc là, il y a... Alors, oui. On peut commenter, peut-être, tu nous commentes deux secondes ce qui se passe.
Alors oui, bon, là, ils sont en train de monter des palettes pour faire une station dans l'arbre. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il faut voir derrière. Demain, on va faire des balades naturalistes à cette zone. En fait, le canal va arriver tout droit là-dessus. Et derrière, c'est un champ pour lequel il y a eu une coupe à blanc. Et en fait, cette zone de ripisylve, en fait, d'arbres, est la dernière qui reste. Et le canal va arriver directement droit sur nous, où on se situe exactement. Et l'Oise va être rebouchée de part et d'autre. Et ça, moi, ça me met vraiment très en colère, parce que là, le fait de reboucher l'Oise, ça va être ce qu'on appelle une zone de compensation. Et à quel moment reboucher une rivière devient une zone de compensation
pour laquelle... Une rivière qu'on a bouchée, hein.
Oui, une rivière qu'on a bouchée, sur laquelle ils vont nous dire on va faire une zone humide qui va être une zone de compensation. Et c'est se prendre pour Dieu de se dire que ce qui va être installé artificiellement va être plus riche que ce qui est déjà présent actuellement.
Okay. Donc là, tu nous décris l'enjeu de ce qui reste. Tu as dit ripisylve, en fait, c'est quoi? Donc c'est les bords de rive, c'est des quelques boisements qui restent. C'est quoi ce qui est important là maintenant ici en Picardie sur ce tracé?
Bah c'est ça, c'est qu'en fait, les ripisylves, ça va être des boisements de bordeaux. Et donc, évidemment, en fait, c'est là où il y a vraiment une sorte de... comme une lisière de forêt, en fait. Ça va être un intermédiaire entre la zone d'eau et la zone terrestre. Et donc, on a aussi des espèces qu'on va trouver qu'à ces zones-là, des espèces batraciens, des espèces mammifères, des insectes et donc des plantes. Et donc, cette zone-là, bon, aujourd'hui, il y a une grosse zone agricole, donc elle est réduite, mais pour autant, elle est là. Et donc, une berge nue, c'est une berge qui s'effrite, c'est de la terre qui part, c'est de la terre arable qui part dans l'eau. Et donc, garder en fait cette zone avec ses boisements qui vont maintenir la berge, qui vont maintenir un habitat sur lequel il y a y a de la vie, c'est ça pour lequel on se bat, en fait. Okay, ouais.
Alors, vous, les perspectives pour vous, c'est quoi les échéances? Parce que tu as dit que vous avez porté donc un recours juridique. On sait que ces choses sont longues, c'est pas suspensif. Du coup, c'est quoi un peu vos échéances? C'est-à-dire, bon, à tel moment, il y aura un enjeu de dire, bah, il y a une possibilité de mettre en difficulté le projet.
Alors là, ouais, c'est ça. On est sur le recours depuis 2024. On est déjà à 5 mémoires en réponse. Donc, c'est qu'on s'envoie des courriers entre la Société du Canal, nous, la préfecture, nous, où on dit qu'on n'est pas d'accord que pour ça. Alors, des fois, on n'est pas d'accord, mais c'est pas valable juridiquement. Donc, il faut apprendre aussi tout le langage juridique. Et ça, c'est vraiment pas évident. Donc, on a
des vraiment une sorte de traduction à faire entre le savoir écologique et le droit qui donne j'ai le droit de faire ou pas, quoi.
C'est ça. Et alors, il y a une traduction, puis il y a des fois où ça va être une aberration écologique, mais c'est pas traduit, donc en fait ça n'a pas de valeur. Et donc là il va y avoir ce recours et je sais pas ce que ça va donner, et puis derrière, ben en fait, si on gagne, on perd le recours, ben quelles sont la suite? On sait que souvent les recours permettent de mettre en pause, mais je pense que de plus en plus rarement ils vont réussir à faire stopper des projets.
Alors il y a quand même le précédent de 69, mine de rien ils ont vraiment mangé leur chapeau, enfin c'était très inattendu pour ceux qui suivent ces affaires d'écologie où en général ils sont astreints à une amende, de toute façon le truc est déjà fait, voilà. Et là, il n'est pas fait, ils ont dit stop, on arrête. Et c'est très, très étonnant. J'imagine que pour vous, ça donne un peu une perspective de se dire, bah, c'est jouable.
C'est pour toutes ces victoires qu'on continue de les faire. La Maison Ange Bleue à la 69, l'Outarde Canepetière à Sainte-Soline, le Triton Crété, je ne sais plus lequel Triton, à Notre-Dame-des-Landes. En fait, c'est toutes des espèces qui, justement, ont permis. Et donc, c'est assez marrant de se dire qu'on travaille avec le vivant non humain et que c'est grâce à eux, en fait, qu'on arrête ces aberrations-là, ouais. Okay.
Avec une sorte d'alliance entre le vivant protégé, non protégé et les humains, quoi, pour dire contre le projet.
C'est ça, et nous on s'est retrouvés donc avec la moule d'eau douce qui a été retrouvée, et on s'est dit, oh là là, mais en fait nous, notre espèce parapluie, ça va être une moule.
On tient l'espèce qui peut-être fera poser problème aux promoteurs, quoi.
Je crois pas, parce que c'était pas la mulette épaisse, mais en fait pour le coup il y en a plein. En fait on est sur 340 espèces menacées, enfin protégées, qui sont menacées, et seulement la moitié ont une dérogation d'espèces protégées. Donc en fait l'embarras du choix est très grande. On a énormément d'oiseaux migrateurs. On est ici en bas de la Somme, mais c'est des zones d'arrêt de populations migratrices. Donc en fait c'est hyper intéressant de garder en fait ces espaces refuges, en fait, pour ces espèces là
alors qu'on sait bien qu'un canal industriel tout droit sans ses berges, ça fait pas le même rôle, quoi.
Non, c'est complètement cuit, ouais. Okay. C'est complètement cuit.
Et ben merci bien.
Merci
pour cette perspective écologique sur ce projet. Et puis une continuation. Tu nous dis, on a une planche dans l'arbre là.
Oui, c'est ça. En fait, donc si j'ai bien compris, c'est dans un peuplier Tremblay, ils sont montés et ils vont installer des espèces de palettes et pour essayer de faire une plateforme et pour garder, parce que donc à partir de début septembre, il y a de nouveau les autorisations de coupe.
Ouais. Et ces arbres sont concernés.
Et ces arbres sont complètement concernés. En fait, le camp sur lequel on est aujourd'hui, en fait, les toilettes sont la limite de l'emprise du canal. Donc, tout l'espace ouvert derrière toi, on va se retrouver 4 mètres plus bas, les pieds dans l'eau.
D'accord, ok. Bah, merci.
Merci à toi.
Eh bien, Zoom Écologie, c'est terminé pour aujourd'hui. On finit un petit peu plus tôt, le reportage est un petit peu court. On mettra de la musique. Eh bien, on souhaite bon courage au collectif qui porte cette lutte contre le grand méga canal. La lutte sera probablement longue, donc on suivra tout ça. Vous pouvez retrouver nos émissions sur Fréquence Paris, sur Fréquence Paris Pluriel, il y a le replay, ainsi que sur zoom-ecologie.net. Dans lesquelles nos émissions sont en podcast. Voilà, vous pouvez aussi nous retrouver sur Spectre quand on met les émissions en ligne. Et nous sommes désormais aussi sur les réseaux sociaux. Et donc vous pouvez nous retrouver sur Mastodon notamment. Voilà. Eh bien, on vous souhaite une bonne soirée. Et puis on vous laisse avec un peu de musique avant Musique Antilles. Bonne soirée.